Le principe du pollueur-payeur, une réalité très complexe. Prenez l'exemple d'une usine implantée au bord d'une rivière dont les rejets d'agents chimiques tuent les poissons qui y vivent et s'y reproduisent. À première vue, le problème semble relativement simple. L'usine pollue, donc elle doit payer. La première étape consiste à mesurer l'action de l'usine. Quels agents sont déversés, quelle quantité, quels effets sur la population de poissons, etc. Ensuite, il faut convertir des types de produits chimiques, des quantités déversées et des tonnes de poissons morts en une amende qui se quantifie en euros. Comment effectuer une telle conversion? Autrement dit, qui fixe le prix de la pollution? La réponse des économistes est souvent d'expliquer que, comme pour n'importe quoi d'autre, il suffit de créer un marché d'offreurs et de demandeurs de droits à polluer pour qu'un prix, plus ou moins aléatoire, émerge. Mais qui seraient les offreurs de ces droits? Les États? Que fait-on si la rivière en question en traverse plusieurs? Si les propriétaires de l'usine décident de payer pour continuer de polluer? Si les poissons en question sont une espèce en voie de disparition? Si la pollution affecte également des microbactéries indispensables à l'écosystème de la rivière. Serions-nous d'ailleurs réellement en mesure de nous en apercevoir? Imaginez qu'au lieu d'une rivière, la pollution se répande dans l'atmosphère et modifie l'ensemble du climat de la planète, menaçant les modes de vie de milliards d'individus de manière différente. Qui serait alors légitime pour participer au jeu de l'offre et de la demande des droits à polluer? Et le droit dans tout ça? Finalement, pourquoi devrait-on aborder le problème de la valeur de l'environnement sous l'angle économique plutôt que juridique? Après tout, certaines activités sont tout simplement interdites. Il n'y a pas de marché officiel de l'offre et de la demande d'esclaves ou d'organes, parce que nous avons volontairement exclu ces pratiques de la sphère marchande. Ainsi, doit-on mettre un prix sur la tête du dernier couple de rhinocéros blancs au risque de voir un milliardaire payer le prix pour le chasser, ou doit-on tout simplement interdire la chasse? Doit-on donner un prix à la tonne de CO2 émise, ou doit-on fixer des seuils légaux d'émission? La réponse à ces questions sort du cadre de ce livre audio, mais sachez que l'angle marchand n'est pas le seul qui peut être envisagé. Finalement, la protection de l'environnement pose problème, car celui-ci est exclu du marché des échanges, ce qui ne lui confère aucune valeur monétaire, il ne participe pas au PIB. L'environnement est donc économiquement invisible. Les règles du jeu économique n'ont tout simplement pas été conçues pour y intégrer la nature. L'angle mort de l'économie. L'économiste classique français Jean-Baptiste Say, 1767-1832, écrivait en 1803 dans son traité d'économie politique: Les richesses naturelles sont inépuisables, car, sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. Aujourd'hui, les modèles macroéconomiques incluant l'environnement sont nombreux. Mais leur approche consiste systématiquement à le valoriser. Autrement dit, l'environnement peut être sacrifié si la valeur du smartphone produit est supérieure à la valeur accordée à la richesse naturelle. De plus, d'après les chercheurs Andrew Oswald et Nicolas Stern, en ce qui concerne la recherche académique en économie, les publications d'articles traitant du changement climatique sont très rares. À peine 60 articles sur 77 000 publications dans une dizaine de revues. Bref, non seulement les économistes veulent tout mesurer en euros, mais, en plus, le changement climatique ne semble pas réellement les intéresser. Mister PIB est à moitié aveugle. Lorsque vous tondez votre pelouse, que vous faites le ménage ou que vous vous préparez à dîner, avez-vous l'impression de participer à la création de richesses du pays? Non. Pourtant, si vous passiez par une entreprise spécialisée pour faire ces activités, le prix payé servirait à créer une nouvelle richesse de service, à rémunérer des travailleurs et des capitalistes. Autrement dit, le PIB mesure tout et n'importe quoi du moment qu'il s'agit de rémunérer des travailleurs et des capitalistes. Imaginez que vous vous mettiez d'accord avec votre voisin pour créer une société de bon voisinage. Il vous verse 100 euros tous les mois parce que vous êtes un bon voisin et vous faites la même chose. L'impact réel est nul. Non seulement la richesse de ce service de bon voisinage est totalement fictive, aucune véritable richesse n'est produite, mais en plus, vous ne gagnez rien et votre voisin non plus. En réalité, parce que vous et votre voisin devrez payer des cotisations sociales et des impôts sur les 100 euros perçus, vous y perdrez un peu. Pourtant, si vous continuez cette petite blague pendant toute une année, alors vous aurez participé à faire augmenter le PIB du pays de 100 euros x 2 x 12 égale 2400 euros. Au contraire, si vous mettez sur pied une association de parents d'élèves qui, suivant les disponibilités de chacun, se propose de garder les enfants le mercredi, d'aller les chercher à l'école et d'organiser des activités le week-end, vous n'aurez absolument pas participé à l'augmentation de richesse du pays. Pourtant, qui pourrait dire que l'association que vous avez créée n'est pas utile ? Encore une histoire de valeur d'usage versus valeur d'échange. Ne s'agit-il pas d'un véritable service qui crée bel et bien de la richesse ? Oui, mais parce que ce service est gratuit, parce qu'il économise des dépenses, donc des revenus, plutôt qu'il n'en crée, le PIB n'en tient pas compte. Notez en passant que si votre association de parents d'élèves est payante mais non déclarée, elle échappera totalement à la comptabilité nationale et donc au calcul du PIB. Les dépenses de l'État comme révélateur des invisibles du PIB. Vous vous souvenez de la tirelire gérée par l'État, même si on pourrait imaginer qu'elle soit gérée par d'autres institutions, qui permet de mettre en commun des ressources afin de rémunérer les retraités, les malades, les parents, les étudiants, les travailleurs qui ont eu un accident, les chômeurs. L'idée est de reconnaître que toutes ces personnes participent à la création de richesses non marchandes, liens sociaux, aide aux personnes, éducation, associations, mais que le PIB ne sait pas les valoriser. Il s'agit donc de reconnaître que toutes les personnes qui touchent un revenu visible aux yeux du PIB, bénéficie plus ou moins des richesses créées par les invisibles du PIB, et donc qu'ils doivent participer à la création d'un pot commun qui sert à les rendre visibles, à les rémunérer pour leurs contributions. Mister PIB n'a aucune morale. Une des autres limites d'un PIB qui mélange tout, c'est qu'il ne mesure pas la qualité. Entre les 2000 euros générés par la vente de cigarettes et les mêmes 2000 euros générés par le salaire d'une infirmière, d'un sapeur-pompier ou d'un professeur, le PIB ne fait pas la différence. Il ne fait qu'additionner la valeur de tout ce qui est produit, peu importe qu'il s'agisse d'armes ou de médicaments, de salaires de soldats ou de médecins. Le cynisme absolu du PIB. Du point de vue du PIB, la guerre est une excellente nouvelle. Non seulement la production des richesses que sont, selon le PIB, les armes, les chars, les avions et les bombes, va provoquer l'augmentation de la croissance économique, mais en plus, la destruction des villes qui suivra nécessitera une phase de reconstruction qui lui sera encore favorable. Mister PIB ne tient pas compte des inégalités. L'une des méthodes de calcul du PIB est la somme des revenus de la population. Lorsque celui-ci augmente, le revenu moyen augmente également. Mais une moyenne est une construction intellectuelle. Au lieu d'observer la multitude des situations de chacun, on agrège l'ensemble en une seule image et donc on perd de l'information. Si j'observe trois groupes de deux personnes gagnant respectivement 50 euros et 50 euros, 25 euros et 75 euros, 0 euros et 100 euros, le revenu moyen de ces trois populations est identique, 50 euros. Pourtant, les trois situations n'ont rien à voir. Dans la première, la répartition des revenus est parfaitement égalitaire, tandis que dans la troisième, elle est parfaitement inégalitaire. Ainsi, si suivre l'évolution du PIB nous renseigne sur la taille du gâteau que nous sortons chaque année du four qu'est notre économie, cela ne nous renseigne absolument pas sur le fait que 1%, les plus aisés, récupèrent une part de plus en plus grosse aux dépens des 50% les plus pauvres. Mister PIB est très imprécis. Nous parlerons un peu plus tard de l'inflation et des principales théories qui tentent de l'expliquer. Ici, je me contenterai d'une simple remarque. Vous le savez peut-être, l'inflation correspond à la hausse des prix. Imaginez un pays producteur de pommes qui, d'une année sur l'autre, augmente sa production. Celle-ci passe de 1000 à 1500 pommes produites. S'agit-il de croissance économique? Y a-t-il plus de richesses créées? Bien sûr que oui. Le PIB devrait refléter cette augmentation de 50% des richesses produites que sont les 500 pommes supplémentaires. Imaginez maintenant que le prix unitaire des pommes est passé de 1 euro la première année à 1,10 euro la deuxième. Les PIB des deux années sont donc respectivement de 1000 fois 1 euro égale 1000 euros et de 1500 fois 1,10 euros égale 1650 euros. Autrement dit, le PIB a augmenté de 65%. Vous comprenez bien qu'il y a un problème. L'augmentation ne devrait être que de 50%. À moins que l'on valide le fait que l'augmentation de 10 centimes du prix des pommes est liée à une augmentation de leur qualité, meilleur goût ou capacité nutritive, cette hausse de prix ne correspond pas à un ajout de richesse supplémentaire. Il s'agit d'inflation. Or, l'inflation fausse le calcul du PIB. Il faut donc calculer l'inflation pour passer du PIB nominal, quantité multipliée par prix des richesses, au PIB réel, quantité multipliée par valeur réelle des richesses. Ainsi, lorsque le prix de n'importe quel bien ou service varie d'une année sur l'autre, nourriture, logement, loyer, café, baguette de pain, smartphone, forfait téléphonique et Internet, carburant, moyens de transport, etc., il faut calculer la différence entre l'augmentation de prix liée à une meilleure qualité et celle qui correspond simplement à l'inflation. Non seulement c'est un travail de titan, imaginez un peu les milliers de biens et de services différents dont les variations de prix doivent être prises en compte, mais en plus c'est un travail totalement subjectif, puisque la qualité d'un produit ne peut pas être mesurée de manière objective. Le fameux panier de la ménagère. Évidemment, les instituts de calcul, en France l'INSEE, utilisent des méthodes statistiques pour simplifier le problème. Ne pouvant pas suivre l'évolution des prix de tous les biens et de tous les services, l'INSEE a créé une liste de produits très populaires, on parle du panier de la ménagère, dont les prix sont régulièrement relevés dans différents supermarchés en France. Mais cela ne résout en rien le problème de l'évolution qualitative des produits. Lorsque les smartphones à écran de 5 pouces pour 2 gigaoctets de mémoire vive sont remplacés par des smartphones à écran de 6 pouces pour 4 gigaoctets de mémoire vive, la variation de prix entre ces deux produits traduit nécessairement une augmentation de qualité, mais peut-être aussi une inflation. Comment faire la différence? Il n'y a pas vraiment de réponse. Ainsi, parce que faire la différence entre augmentation de la qualité et simple augmentation du prix est une tâche impossible à réaliser et que la quantité de biens et de services est beaucoup trop importante, le calcul de l'inflation est complètement faussé. Or, sans un calcul précis de l'inflation, impossible de savoir si l'augmentation constatée du PIB correspond à un véritable ajout de richesse. Autrement dit, la croissance n'en est peut-être pas. L'épineux problème de l'agrégation. Restons encore quelques instants dans le monde de la production agricole. Imaginez une production de pommes et de poires sur deux années consécutives. Année 1, 10 pommes à 1 euro l'unité et 20 poires à 1,25 euro l'unité. PIB nominal, 35 euros. Année 2, 20 pommes à 1,50 euros l'unité et 10 poires à 1,30 euros. PIB nominal, 43 euros. Comme vous pouvez le constater, les quantités produites et surtout les prix des pommes et des poires ont varié entre les deux années. Mes deux PIB sont donc nominaux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être comparés entre eux car l'inflation vient les distordre. Pour savoir s'il y a eu croissance économique ou non, il faut donc soit utiliser les prix de l'année 1 pour recalculer le PIB de l'année 2, soit utiliser les prix de l'année 2 pour recalculer le PIB de l'année 1. La question est la suivante. L'année de référence choisie pour fixer les prix a-t-elle une importance dans le calcul de la croissance? Avec les prix de l'année 1, PIB année 1, 10 fois 1 euro plus 20 fois 1,25 € égale 35 euros. PIB année 2, 20 fois 1 euro plus 10 fois 1,25 € égale 32,50 €. Croissance, moins 7,2%. Avec les prix de l'année 2, PIB année 1, 10 fois 1,50 € plus 20 fois 1,30 € égale 41 euros. PIB année 2, 20 fois 1,50 € plus 10 fois 1,30 € égale 43 euros. Croissance, plus 4,9%. Et vous voyez bien que la réponse est oui. En calculant les PIB avec les prix de l'année 1, on trouve une récession de 7,2%, crise économique, tandis qu'avec les prix de l'année 2, on trouve une croissance de 4,9%. Que vient-il de se passer? Pourquoi l'année qui sert de référence à la fixation des prix est-elle si importante? C'est très simple. Les prix des pommes et des poires ne varient pas au même rythme. Lorsque nous fixons une année de référence pour mesurer le prix, nous créons une règle dont les graduations dépendent de l'écart de valeur entre les poires et les pommes. En construisant une règle dont les graduations indiquent que les poires valent 25% de plus que les pommes, les prix de l'année 1 sont la référence, on met l'accent sur la production de poires dans le calcul de richesse. Et donc, puisque cette production a été divisée par 2 entre l'année 1 et l'année 2, on matérialise une très forte perte de richesse, d'où la récession de 7,2%. En revanche, en construisant une règle dont les graduations indiquent que les poires valent 33% de moins que les pommes, les prix de l'année 2 sont la référence, on valorise davantage la production de pommes qui a justement doublé entre l'année 1 et l'année 2, d'où la croissance économique de 4,9%. Un article publié par le chercheur Blair Fix en 2018 montre qu'aux États-Unis depuis 1940, le prix des pommes a été multiplié par presque 50, celui d'une visite chez le médecin par 35, celui de la viande par 20 et celui des loyers par 15. Le prix de n'importe quoi évolue de manière différente du prix de n'importe quoi d'autre, si bien que l'année de référence choisie pour fixer le niveau des prix et calculer l'inflation est crucial. Les recherches de Blair Fix montrent d'ailleurs que, depuis 1940, le PIB américain a été multiplié par un ratio compris entre 3 et 4. 4 si l'année de référence pour la fixation des prix est récente, 2010, 3 si celle-ci est plus ancienne, les années 1990, et n'importe quoi entre les deux pour les autres années. Lorsqu'on vous annonce le taux de croissance économique d'un pays ou d'une région, retenez donc que celui-ci peut varier du tout au tout en fonction de l'année qui sert de référence à la fixation des prix, ce qui n'empêche pas l'observation de tendances sur des périodes suffisamment longues, et que le choix de cette année de référence est totalement arbitraire.